Lorsque vous appelez un conseiller Dell Technologies, vous échangez avec une personne qui n'attend pas simplement son tour de parler, mais qui écoute réellement ce que vous avez à dire et fournit les solutions adaptées aux besoins de votre entreprise. C'est tout l'art de l'écoute. Besoin de conseils sur nos produits allant des PC, serveurs jusqu'au cloud? Contactez un conseiller dès aujourd'hui au 0800 800 001 ou sur Dell.fr. Dell Technologies recommande Windows 10 Professionnel pour les entreprises. Le système le plus sécurisé.
Merci Mathieu, à la semaine prochaine. C'est presque comme si ce n'était pas moi qui avais choisi l'univers, mais l'univers qui m'avait choisi. Alors y aurait-il une forme d'immanence dans la carrière de notre prestigieux invité du jour, une sorte de destin cosmique? Astrophysicien, directeur du Hayden Planetarium à New York, il va suivre les pas de celui qu'il présente comme son mentor, Carl Sagan, et consacrer sa carrière à la vulgarisation. Et quel vulgarisateur peut être le plus populaire de tous? Il reprend la série Cosmos, amène la science à la radio avec la série Star Talk, écrit de nombreux livres et devient même une figure de la pop culture. Nous ne sommes pas peu fiers de recevoir Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson est notre invité spécial pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour, hello Neil deGrasse Tyson.
Yes, hello. Thank you for having me as a guest.
On est vraiment absolument ravis de vous avoir au micro de la méthode scientifique. Votre dernier livre, Letters from an Astrophysicist, un astrophysicien dans votre salon, vient d'être traduit et publié en français chez Belin. Je disais dans l'introduction cette citation, c'est presque comme si ce n'était pas moi qui avais choisi l'univers, mais l'univers qui m'avait choisi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette citation?
Oh, that came from deep within my heart. I remembered
when
I was 9 years old, my first visit to my local planetarium.
Je me souviens encore de ma première visite au planétarium, là où j'habitais, le planétarium Hayden à New York. C'est là que j'ai grandi. Je suis le directeur de ce planétarium aujourd'hui. Mais je me souviendrai toujours de cette première visite. Je me mets dans le fauteuil, je regarde vers le haut, les lumières baissent et les étoiles apparaissent. Et c'était une vocation. C'est pas une vocation très scientifiquement exprimée. D'accord. Mais c'était un appel. L'univers m'a appelé. Et j'ai suivi la voie que m'indiquait l'univers et j'ai fait ce qu'il fallait pour aller voir ce que l'univers me montrait. Les étoiles, les planètes et la lune du cosmos.
Si nous n'étions pas scientifiques, vous et moi, on pourrait croire à une prédétermination, à une sorte de déterminisme. Comment est-ce que vous l'interprétez ?
Here's what I think it really was. I think I would have
voilà
been
ce que c'était.
No matter what.
Je pense que j'aurais été astrophysicien, quelles qu'étaient les circonstances. Mais cette visite au planétarium était telle que c'est devenu l'objectif de ma vie très tôt. Il y a des gens dont la vocation est plus tardive. Moi, la mienne était très précoce. Le résultat, c'est que j'ai pu investir mon temps dès l'âge de 10 ans dans cette vocation. À l'âge de 11 ans, j'ai eu mon premier télescope, puis j'ai commencé à suivre des cours, à lire des livres en dehors du système scolaire. Donc, vous voyez, le sol était labouré très tôt, avant même d'aller au lycée.
Alors, pour commencer, Neil deGrasse Tyson, vous êtes dans une émission scientifique. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de science ces 12 derniers mois à cause d'un certain virus. Et du coup, c'est vrai que bien l'espace, l'astrophysique est un peu passé au second plan. Alors, j'aimerais vous demander, pour commencer, quel événement a été le plus important en termes d'astrophysique pour vous dans l'année passée?
So, first, as an astrophysicist, I often try to...
Avant tout... En tant qu'astrophysicien, j'essaye d'avoir un point de vue cosmique sur les phénomènes terrestres. Et ça peut être très utile. Par exemple, lorsque le virus a donné lieu à la pandémie au mois de mars, eh bien moi, on m'interrogeait sur d'autres sujets scientifiques dans différentes interviews à la radio et à la télévision. Et les gens me posaient des questions sur le coronavirus à l'époque. Tout ce que je pouvais vous dire, c'est ce que je vous dire maintenant. Le coronavirus était une épreuve visant à déterminer si l'opinion publique va suivre les avertissements des professionnels scientifiques, en l'occurrence des scientifiques médicaux. Une sorte d'épreuve. Si on peut réagir favorablement à ces opinions, eh bien le virus va disparaître et on peut revenir à nos travaux ordinaires. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Et je suis très déçu par l'espèce humaine, car nous n'avons pas su nous serrer les coudes pour combattre cet ennemi commun. Imaginez des extraterrestres qui débarquent sur Terre dans le but de détruire l'humanité. J'espère qu'on se rassemblerait et qu'on ignorerait les frontières nationales, la couleur de la peau, les différents obstacles religieux qui nous séparent. Non, il faudrait qu'on se rassemble. Nous sommes des êtres humains et nous avons un ennemi commun. Ça n'a pas été le cas avec le coronavirus. Par conséquent, je suis très déçu par la civilisation. Sa réaction n'a pas été bonne. Elle n'a pas été à la hauteur de l'épreuve, parce qu'un jour, il y aura peut-être une invasion d'extraterrestres. Qu'allons-nous faire alors? Ça ne répond pas vraiment à votre question, j'en conviens, mais je voulais vous dire quelle était ma réflexion quant au coronavirus.
Mais du coup, ça me renvoie à une autre question et vous répondrez plus tard à ma question principale. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui, au XXIe siècle, compte tenu de ce qu'est devenu la science dans nos vies, compte tenu de la précision qu'a la science pour décrire notre quotidien et l'univers, comment vous expliquez que ce soit aujourd'hui que la science soit le plus mise en question et que les gens aient le moins confiance en la science?
Yes, it is quite the paradox.
And quel paradoxe, en effet. Ma réponse n'est pas pétrie de certitude, néanmoins j'ai quelques idées. Tout d'abord, si l'on est dans une société riche du point de vue de la technologie, eh bien, on prend les choses pour acquises. Vous prenez votre téléphone, vous êtes dans la rue, en plein centre-ville de Paris, et vous parlez avec quelqu'un qui est dans la rue, en plein centre-ville de New York. Vous menez la conversation et vous vous rendez à peine compte de la merveille technologique qui vous permet d'avoir cet entretien. Vous raccrochez à la fin de la conversation, point final. Mais la technologie est quand même éblouissante. Il y a très peu de gens qui ne s'en soucient pas. Ils utilisent simplement cette technologie. Donc si l'on est dans une société où la technologie et la science rendent tout ce que vous faites possible sans que vous ayez à vous soucier, eh bien, je pense que vous pourriez croire que, eh bien, les nouvelles découvertes scientifiques ne sont pas dignes d'intérêt. Vous vous dites, bon, ben alors, c'est de la science, c'est tout. Et d'ailleurs, tiens, je reçois un coup de téléphone de ma tante tunisienne. Bon, bref. Vous voyez, ça c'est ma première observation. Deuxièmement, je ne connais pas le système éducatif en France, mais aux États-Unis, en tout état de cause, la science est enseignée comme une discipline qui vous donne des informations qu'il faut apprendre. Donc vous arrivez en tant qu'élève dans votre classe, c'est un récipient vide, on vous donne de l'information, voici ce qu'est l'ADN, voici ce qu'est un séisme, voici ce qu'est un volcan, voici la structure d'une fleur. Et donc les élèves apprennent cela, mais on n'expose pas les élèves à la science. C'est la chose la plus importante que nous ayons inventée pour déchiffrer les mystères du monde qui nous entoure. Et c'est une conception formidable pour révéler la vérité objective et ce qui n'est pas vrai du point de vue objectif. Si on ne sait pas ça à propos de la science, on la considère comme simplement sac d'informations. Et vous pouvez mettre ça derrière vous. Ah, tiens, voilà d'autres informations. Tiens, je vais apprendre des choses sur la philosophie New Age. Évidemment, c'est en contradiction avec la science, mais on n'a pas le luxe de choisir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Il faut que ça réponde à vos émotions, à votre croyance religieuse, à votre culture, à votre personnalité. Vous voyez, c'est biaisé. Et la science, lorsqu'elle est établie par l'expérience et l'observation, elle arrive à une certaine vérité. Quoi que vous puissiez en penser, c'est comme ça. Et ça nous distingue de bon nombre d'autres activités.
Ce sont deux réponses, ou en tout cas deux commentaires vraiment intéressants. Du coup, je vais revenir à ma question principale ou à ma question première et je vais vous en poser une question qui la complète. L'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé dans l'astrophysique qui vous a semblé intéressant et qu'est-ce qui va se passer dans l'année qui vient qu'il ne faut surtout pas rater?
So in 2020, it's what was fun about 2020
2020, c'était une chouette année. Parce que dans le ciel de nuit, il s'est produit des tas de choses auxquelles beaucoup de gens pouvaient participer. Et l'une des caractéristiques de l'astrophysique, c'est que lorsque l'on étudie des objets dans l'univers, vous avez le Soleil, la Lune, les étoiles, les planètes, et au cours de l'année écoulée, il y a une comète qui est passée, la comète NEOWISE, visible à l'œil nu. Les satellites de la NASA ont des détecteurs spéciaux et des systèmes de protection permettant de détecter les comètes, alors que cela n'est pas possible depuis la surface de la Terre. Donc, c'était visible dans le ciel du soir. Et moi, j'ai pris des photos. C'était très chouette. Et par ailleurs, l'été dernier, il y a eu la Lune qui a éclipsé Mars. Donc, il y a Mars, il y a Lune. Donc, on orbite autour de la Terre et tout à coup, la Lune bloque Mars. Ça, c'était chouette. Pas besoin de télescope pour voir ça. Hein. Et plus tard, le 21 décembre 2020, Jupiter et Saturne se sont rapprochés dans le ciel. Ces planètes étaient aussi proches qu'il y a 400 ans. D'ailleurs, si vous ne voyez pas très bien sans lunettes, quand vous retournez vos lunettes, eh bien, vous arrivez du mal à distinguer les deux planètes dans le ciel de nuit. Donc ça, c'était très chouette aussi. Une part de l'univers est arrivée à la connaissance des êtres humains. Mais l'année dernière, nous avons lancé le prochain rover qui est en train d'aller vers Mars et qui va arriver à la surface de Mars dans quelques semaines, le 18 février. Le voyage dure 9 mois quand même hein, pour y arriver. Donc, en 2020, nous avons lancé ce véhicule qui va arriver à la surface de Mars en février 2021. Vous vous dites peut-être, bon d'accord, c'est un autre rover, un autre véhicule. Non. Oui, mais non. Celui-ci a des instruments scientifiques plus avancés. C'est un laboratoire, mais il y a également un hélicoptère. Un hélicoptère qui va s'élever du véhicule, du rover, et qui va se promener dans les collines proches de l'endroit où l'atterrissage s'est fait. Donc, est-ce que l'on peut créer un aéronef qui va voler dans l'atmosphère d'une autre planète que la Terre? Évidemment, les besoins sont différents.